Tout Femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM
97.1
avec Véronique
et Valérie.
Aujourd'hui, nous vous présentons dans Tout Feu Tout Femme le deuxième volet de notre émission consacrée à la drogue et aux addictions. Alors, nous avons dans une émission précédente reçu Philippe Dilewski qui a écrit en collaboration avec Saphir et Siaf le livre 24 heures héros qui est paru aux éditions Fièvre Jaune et qui relate la vie de deux jeunes héroïnomanes dans la ville de Charleroi en Belgique. Et puis, maintenant, nous recevons, pour discuter de ce problème récurrent et destructeur, deux professionnels qui travaillent sur la commune de Bourgoin-Jallieu, Madame Argout, donc Citoni, centre de soins, accompagnement et prévention en addictologie, et Monsieur le docteur Souwen, médecin dans ce même centre. Ce centre est situé 5 rue Charcot, bâtiment Le Duplessis, à Bourgoin-Jallieu. Et puis, vous pouvez les joindre, bien sûr, au 04 74 93 15 64. Vous trouverez sur notre site tous les renseignements à ce pour cela. Cet établissement donc fut créé par l'association Tandem en mai 97. Initialement, c'était un réseau ville en appui sur l'hôpital avec pour objectif d'être un centre d'écoute et d'orientation sur les problèmes de sida et de toxicomanie sur le Nord-Isère. Il est ouvert au public, usagers, entourage, professionnels et appelé CITONI, c'est-à-dire Service d'insertion de toxicomanie en Nord-Isère. Le centre hospitalier Pierre Houdot a fortement contribué à la mise en place de CITONI en lien avec l'association pour la promotion de la santé sur le Nord-Isère, et puis bien sûr le service hospitalier de gastro-entérologie. Dans le centre spécialisé, vous trouvez comme professionnel une directrice, un secrétaire médico-social, un cadre administratif responsable de la prévention, une assistante sociale, un éducateur spécialisé, un médecin psychiatre, 5 médecins généralistes, dont un acupuncteur et homéopathe, 3 psychologues, une socio-esthéticienne. Voilà ce qu'il me semblait important de dire avant d'arriver au cœur du sujet avec nos deux invités. Madame Angou, Monsieur Souwen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent sur Couleur FM et d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on peut donc se rendre dans ce centre si l'on est personnellement concerné par la consommation de produits illicites, par une addiction sans produits comme les jeux vidéo, casinos, internet, sport, etc. Si l'on est un parent ou un proche d'une personne touchée par des problèmes d'addiction, si l'on cherche des informations concernant ces questions, si l'on a eu un comportement à risque ou si cette situation nous dérange, nous inquiète ou nous questionne. Alors, ma première question vous est destinée, Madame Angou. J'ai rapidement énuméré les raisons pour lesquelles on pouvait s'adresser à votre centre. Mais vous êtes au cœur de l'action. Pouvez-vous donc nous dresser un tableau de la situation sur le Nord-Isère et nous dire ce qu'est votre centre au cœur de cette problématique?
Alors, notre centre a une position, je dirais, centrale sur le territoire. Il n'y a pas d'autres lieux spécialisés comme le nôtre à proximité. Les autres centres sont sur Lyon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, c'est loin, sachant que la population qu'on accueille a besoin d'être vue très régulièrement, de venir assez souvent. On vous expliquera peut-être un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. Mmh. Voilà, on a une position très centrale sur le territoire. Les personnes qui viennent sont de Bourgoin pour certains, mais pas que. On a notre patientèle vient de tout le Nord-Isère, on peut dire.
C'est large.
Oui, c'est assez large. Donc on a des personnes qui font beaucoup de kilomètres pour venir nous rencontrer, voilà, qui viennent de assez loin.
Alors, combien de personnes sont suivies dans votre centre et viennent-elles uniquement... vous venez d'y répondre, est-ce qu'elles viennent de Bourgoin ou pas, ou de la périphérie d'action est plus grande? Oui, elle est plus grande, effectivement, puisque tout dans les grandes villes et rarement dans les petites villes, malheureusement. Donc, à peu près combien de personnes sont suivies dans votre centre?
Alors, sur les statistiques de 2016, on était à 650 environ personnes, tout public confondu, qui sont venus nous rencontrer au cours de l'année. Voilà, c'est un chiffre qui est à peu près stable d'année en année.
Ça vous paraît énorme ou pas assez à vos yeux? C'est jamais assez, il faudrait qu'il y ait plus de monde.
C'est jamais assez, en tout cas, pour nous, c'est notre capacité d'accueil maximum.
Ah, déjà.
Parce que, tous les créneaux horaires, c'est complet tout le temps.
C'est saturé.
Donc voilà, on est sur un chiffre stable, mais je pense qu'il est plus lié à notre capacité d'accueil qu'à autre chose, voilà.
Aux gens qui potentiellement
pourraient venir.
Monsieur Souwen, vous vouliez...
C'est notre capacité d'accueil est liée aussi au fait que certaines personnes qui pourraient venir habitent trop loin pour pouvoir se déplacer. Ouais. Et ça pose la question aussi de comment est-ce qu'on pourrait se déployer à l'extérieur du centre. Là, en 2016, on a ouvert une première antenne à Pont-de-Cherui et on espère qu'on aura la possibilité de développer d'autres antennes pour pouvoir accéder aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Des micro-antennes un petit peu partout,
ouais,
quoi.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on peut se déplacer à 20 km aux alentours, mais ceux qui n'ont pas de moyens de transport, de toute façon, sur la région, c'est quand même très compliqué de se déplacer, par exemple, de Crémieux à Brouin-Jallieu.
Tout à fait.
Si vous n'avez pas de véhicule, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc on lance un appel au déploiement de ces petites antennes un petit peu partout dans le Nord-Isère pour combattre ce fléau. Alors, y a-t-il un type de personne qui devient addict ou bien tout un chacun peut se retrouver dans cette situation à n'importe quel moment de sa vie et, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes?
Du coup, il y a deux questions.
Oui.
La première question, c'est un petit peu la typologie des gens qui sont susceptibles de développer une addiction. Alors, il y a plein de théories en addictologie pour essayer d'expliquer comment une personne, à un moment donné, peut se faire piéger. Il y a un modèle classique qui est intéressant, qui explique qu'en fait, une addiction se développe quand il y a la rencontre malencontreuse d'un sujet, d'un produit et d'un environnement. Alors, au niveau du sujet, une personne donnée va pouvoir développer une vulnérabilité psychique, donc soit à certains moments de sa vie, des moments qu'on traverse tous, comme l'adolescence, qui est quand même vraiment le moment classiquement où s'enracine, où émergent les problématiques addictives. Après, ça peut être d'autres événements, ça peut être une rupture, un deuil, un problème plus du registre, enfin de difficultés sociales. Voilà.
Donc ça peut arriver beaucoup plus tardivement,
ça
en fin
peut
de compte,
aussi,
à n'importe quel moment de la vie.
Ça peut aussi arriver plus tardivement, absolument. Et puis, il y a aussi une dimension génétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous équipés au niveau génétique de la même façon face aux addictions. Et il y a des gens qui développeront plus facilement, du fait de leur matériel génétique, des problématiques addictives. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne le sujet. Après, ce qui concerne le produit, d'une part, il y a la première chose, c'est quelle va être la disponibilité d'un produit dans un environnement géographique et social donné. Il y a aussi, bien évidemment, l'effet du produit sur un consommateur. Est-ce que la personne va ressentir, va apprécier le produit, l'effet du produit sur lui? Est-ce qu'il y a, c'est donc toute la dimension du plaisir. Et puis, il y a aussi un type de rapport au produit qui est toujours problématique, c'est ce qu'on appelle l'autothérapie. C'est-à-dire, des gens vont prendre un produit pour anesthésier une souffrance psychique. Et du coup, cette dimension de l'autothérapie est toujours à analyser de façon précise dans notre travail, parce que même des produits qui ne sont pas forcément a priori les produits immédiatement les plus dramatiquement dangereux peuvent d'emblée représenter un usage problématique quand c'est à visée autothérapeutique.
Alors par exemple, donnez-nous un exemple concret.
Je pense classiquement au cannabis, c'est-à-dire
oui.
que le cannabis est un produit dont l'usage est extrêmement répandu. Il y a des gens qui vont avoir une pratique du cannabis qui ne représentera jamais de danger dramatique, au-delà du fait que de toute façon le cannabis est interdit, et voilà, mais l'usage du cannabis n'aura pas forcément de répercussions graves dans leur trajectoire
ils
de
vont
vie.
Être capables de s'arrêter à ça et de pas aller chercher autre chose pour
maîtriser la consommation et voilà, il n'y aura pas de conséquences dommageables pour leur santé. Et puis il y a d'autres personnes qui vont anesthésier un mal-être avec le cannabis et ces personnes-là d'emblée sont à risque de développer une dépendance vraiment problématique à ce produit.
Et généralement, donc, quelles sont les raisons, on a parlé un petit peu, qui poussent quelqu'un à tomber dans ce piège? Est-ce qu'il y a d'ailleurs, moi je me posais la question, est-ce qu'il y a d'ailleurs des raisons ou simplement c'est un phénomène d'entraînement entre les gens? Parce qu'on a, souvent, comme vous le disiez, la mauvaise rencontre, le mauvais moment. On se retrouve aussi souvent, on va parler de l'alcool, parce que c'est quand même quelque chose de classique, j'allais dire malheureusement classique dans la société. Quand on est en société, on va boire un verre avec les copains, tiens, t'en reprends un deuxième, t'en reprends un autre, t'en prends pas, t'es une mauviette, enfin voilà, etc., etc. Et puis finalement, on en prend l'habitude, on y va un soir, on y va deux soirs, on y va trois soirs, et pouf, on tombe dans l'addictologie.
Ouais, c'est
voilà.
ça. Mais alors ça, c'est en fait, vous faites, là vous parlez exactement de la troisième dimension que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question de l'environnement. Donc après avoir parlé de la susceptibilité du sujet et les caractéristiques du produit, il y a effectivement comment les choses sont présentes dans l'environnement. Donc c'est le type d'usage culturel pour l'alcool, plus dans certains milieux professionnels en particulier, à certains âges de la vie. Voilà, il y a des produits inversement qui seront plus difficilement disponibles à un endroit donné et à un moment donné. Et puis il y a une notion qui me semble extrêmement importante, alors qui est un peu transversale à toutes les addictions, et je crois que c'est important qu'on puisse en parler, c'est la notion de société addictogène. Ça, c'est quelque chose qui est décrit maintenant depuis quelques années. Ça a été décrit par des sociologues, des anthropologues au départ. Et c'est le fait que la société actuelle, consumériste, amène facilement les gens, pousse les gens au dépassement de leurs limites, promeut le dépassement des limites.
Un exemple pour l'auditeur qui...
La publicité, la pression au travail, où on demande aux gens d'être opérationnels à 200%.
Toujours les meilleurs,
c'est ça,
les plus rapides.
Et le problème, c'est que ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut être performant éventuellement à 100% pendant un certain temps, mais à plus de 100%, on ne peut pas. Et du coup, les gens... cette pression-là nous pousse à nous doper, finalement. Et la drogue, l'addiction, enfin les produits, les comportements addictifs sont une façon de se doper.
Pourtant, les comportements addictifs tels que la drogue, le cannabis, etc., sont quand même des choses, théoriquement, avec l'alcool, qui vous font perdre un petit peu votre dynamisme, etc. Donc c'est un peu là le lien où j'ai du mal à comprendre comment est-ce que... je me fais l'avocat du diable dans ces questions, on est là pour ça. Comment est-ce qu'on peut finalement croire que la drogue et l'alcool et d'autres produits peuvent nous doper, alors que finalement, on voit bien autour de nous quand même... Le résultat des courses sur sur la plupart des personnes.
En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas d'appréciation rationnelle quand on est confronté à des produits. On ne va pas se dire comment est-ce que je peux m'optimiser. C'est simplement qu'à un moment donné, on va faire l'expérience que un peu d'alcool va nous désinhiber, va rendre les relations sociales plus faciles. Et évidemment, si on en boit un peu plus, ça va plus fonctionner du tout. On va avoir le résultat inverse. À un moment donné, on va se rendre compte que le cannabis, le soir, en rentrant chez nous, nous permet de nous détendre après la pression qui a été vécue dans la journée.
Et de dormir.
Et de dormir sans gamberger pendant des heures à ce qu'on a vécu pendant la journée. Et c'est comme ça que les choses peuvent s'installer.
Nous allons faire une pause musicale sur Couleur FM 97.1 dans Tout Feu Tout Femme et nous allons écouter en premier Guano Padano. C'est un choix de nos invités, Bull Buster. Pourquoi ce choix?
Parce que je trouve que c'est un morceau qui met de bonne humeur le matin.
Et ben voilà, on y va. De bonne humeur pour Tout Feu Tout Femme.
Thank you.
Alors, je vais reprendre ma question après cette pause musicale dans Tout Feu, Tout Femme sur Couleur FM 97.1. La question, c'était, y a-t-il plus d'hommes que de femmes?
Alors,
dans cette situation,
Oui, il y a plus d'hommes que de femmes, et de façon très intéressante, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment reproductible, c'est-à-dire que les statistiques que l'on observe dans les patients qui nous consultent correspondent grosso modo aux statistiques nationales, et c'est assez proche des statistiques internationales.
Oui.
Et on est, avec des petites variations, mais autour de 80% d'hommes pour 20% de femmes.
Quand même,
oui.
Il y a une vraie différence.
C'est énorme, ouais. Et est-ce qu'il y a une addictologie plus prédominante chez l'homme que chez la femme, ou bien c'est...
Alors, en fait, le seul contre-exemple, c'est l'addiction aux médicaments, qui va être beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.
D'accord.
Mais pour les autres, et le tabac, où c'est à peu près équilibré aussi, qui tend à s'équilibrer de plus en plus. Il y a encore un déséquilibre, mais ça tend à s'équilibrer progressivement. Pour les autres produits, vraiment, il y a une prédominance masculine très très importante. Après, alors ça, on n'a pas fait d'études spécifiques au niveau de nos patients, mais ce que montre la littérature scientifique, c'est qu'il y a moins de femmes, mais ces femmes-là sont plus vulnérables. Elles sont beaucoup plus vulnérables que les hommes et beaucoup plus vulnérables que les femmes ne souffrant pas de problèmes d'addiction. Il y a des chiffres absolument terrifiants qui montrent que, par exemple, une femme avec des problèmes d'addiction graves, suivie dans un centre, a un taux de mortalité 18 fois supérieur aux femmes du même âge ne présentant pas de problème d'addiction.
D'accord.
Les hommes, c'est 5 fois plus.
Oui.
D'accord. Donc on a plus... Enfin, il y a une différence de plus de 3 fois, enfin, des dommages 3 fois plus importants chez les femmes que chez les hommes victimes d'addiction. Et un autre chiffre vraiment très, 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 très inquiétant, c'est que selon les études, autour de 60% des femmes présentant des problématiques addictives graves ont été victimes de violences physiques et sexuelles.
Voilà. Alors ça, c'était l'objet d'une autre émission sur la violence sur les femmes et sur la violence des enfants. Et effectivement, on voit de temps en temps des petites, pas des publicités, mais des petites périodes de lancement de campagne, voilà, pardon.
De prévention.
Une campagne de prévention, mais la campagne de prévention, ça fait pas tout, quoi. Et effectivement, quand on est dans son coin et qu'on se fait taper ou violenter, j'imagine qu'à un moment donné, il faut trouver une solution pour supporter c'est un petit peu ça quelque part, c'est
alors,
supporter cette vie, supporter ce non
à la fois c'est une solution, et ça c'est vraiment intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que ça, c'est toute la question de l'addiction comme solution à des choses que l'on est en train de vivre ou qu'on a vécu auparavant, c'est-à-dire que l'addiction chez certaines femmes, c'est un moyen de s'échapper psychiquement des violences qui sont vécues au quotidien, mais c'est aussi le moyen de continuer à vivre malgré les choses terribles qu'on a pu vivre dans l'enfance.
C'est un pansement.
Après. Ouais.
Un pansement qui tombe régulièrement.
C'est un pansement qui, malheureusement, empêche de soigner la plaie.
Voilà. Ouais, il faut bien le dire et le redire. Allez vers les gens qui vous tendent la main, allez vers les lieux qui sont ouverts pour ça. N'hésitez pas, il n'y a aucune honte à tomber dans ça. On peut toujours s'en sortir. Hein. Alors, on va parler un petit peu de la drogue dans le Nord-Isère et puis la circulation de cette drogue. Hein. On connaît les différents types de produits qui sont en gros au nombre de 13 et qui se consomment de façon différente. Alors, je rappelle rapidement les noms de ces substances pour ceux qui ne les connaissent pas. Les amphétamines, le cannabis, champignons hallucinogènes, la cocaïne, le crack, l'ecstasy, le GHB, l'héroïne, la kétamine, l'LSD, méthoxétamine, la poppers, salvia divinorum, quel beau nom, mon Dieu, tout ça pour faire descendre les gens aux enfers. Bon, alors, pour vous, toujours dans le Nord-Isère, je ne sais pas lequel va pouvoir me répondre, quel est le plus gros fléau, l'alcool, la drogue ou autre chose? Qui veut me répondre?
Est-ce qu'on peut identifier un plus gros fléau? Je ne sais pas si on peut vraiment parler en ces termes-là. Nous pour les personnes qu'on reçoit, on disait tout à l'heure environ 650 personnes, c'est à peu près pour moitié-moitié porte d'entrée, consommation d'héroïne ou consommation de cannabis.
Ah oui.
Voilà. Après, quel est le plus gros fléau ? Je ne sais pas, Guillaume.
Alors, moi j'aimerais... voilà, dans les patients... Le centre dans lequel nous travaillons est un centre qui accueille des personnes victimes d'addiction à des produits illicites.
Oui.
Et du coup, on passe à côté, à mon avis, des... Enfin, bien sûr que les patients qui sont dépendants à l'héroïne, ils sont victimes d'un fléau. Enfin, voilà. Mais faut pas perdre de vue les ordres de grandeur. Le tabac tue 73 000 personnes par an en France. L'alcool tue 47 000 personnes par an en France. Le nombre d'overdoses mortelles aux opiacés en France, ça tourne entre 300 et 450.
Mais bon, tout fléau est à traiter.
Ouais, c'est ça.
Oui, bien sûr.
C'est
à
ça.
Éradiquer.
Et puis, si vous voulez, après, il y a la mortalité, et puis il y a ce que l'addiction ou le produit va impacter dans la vie, dans la trajectoire de vie d'une personne. Et on voit bien que l'héroïne, les opiacés en général, c'est quelque chose qui déglingue complètement et très rapidement la vie des gens. C'est-à-dire que les gens fréquemment vont s'isoler, vont perdre leur travail, ils vont se couper de leurs relations familiales. Y a vraiment la vie des gens s'étrique très rapidement autour de l'héroïne, beaucoup plus qu'autour du tabac.
Alors,
le tabac va pas avoir cet effet-là.
Oui, ça va avoir un effet néfaste sur les poumons, sur un éventuel cancer, etc. Mais ça n'aura pas effectivement d'incidence particulière immédiate dans la vie de la personne. Mmh. Mais l'héroïne, donc justement, qu'est-ce que ça provoque quand on en prend ? Qu'est-ce que ça entre guillemets, excusez-moi du terme, qu'est-ce que ça déglingue, je veux dire, qu'est-ce que ça abîme tout de suite, et qu'est-ce qu'on voit très vite arriver dès la prise de ce type de drogue?
Alors,
dans le comportement, dans la vie de tous les jours, à part l'isolement, parce que ça c'est une conséquence, mais en réaction du corps, c'est quoi?
Les réactions du corps sont vraiment des conséquences De la place que ça prend dans la vie. C'est-à-dire que l'héroïne en elle-même, alors si on ne fait pas d'overdose, si on n'attrape pas une maladie infectieuse comme le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, soit en sniffant, soit en injectant ces produits, si on ne va pas attraper un abcès lié à une injection, enfin, si on n'est pas dans les complications médicales de cette chose-là, il y a peu de toxicité à long terme de l'héroïne, contrairement au tabac. L'héroïne ne donne pas de cancer, hein, par exemple. L'héroïne
mais la mémoire, la vigilance,
alors, pour la
dépendance...
Alors, mais la dépendance s'installe très vite, ouais. Et tout le problème est là. Et les vrais dégâts, ils sont liés à la dépendance, c'est-à-dire à la place que prend l'héroïne
produit
dans la vie. Et les gens vont être pris dans une spirale de consommer du produit, être en manque, rechercher du produit, consommer du produit, et il n'y a plus rien d'autre qui va exister. Et du coup, les gens vont avoir une hygiène de vie qui va se dégrader, et il y aura des conséquences sur la santé, mais consécutives à la place prise par le produit. D'accord. Et du fait qu'on n'a plus le temps de prendre soin de soi.
D'accord, bon, c'est quand même plus clair comme ça, merci. Quelle drogue circule le plus sur le territoire bergalien ? Est-ce que vous avez une idée de ces...
Oui, alors le cannabis.
Le cannabis.
Le cannabis, okay. qui est répandu.
Cannabis et héroïne, on trouve à peu près partout.
Voilà.
Oui, mais... c'est facile, hein, c'est sur place, c'est marché ouvert à Bourgoin-Jallieu.
Même dans les petits villages.
Mais dans les petits villages,
oui,
partout. Mais
c'est ça qui est dramatique, c'est ce que M. Dilewski l'autre jour me disait, que contrairement à la Belgique, en France, nous, ça arrivait maintenant dans les villages. Or,
Bien sûr.
L'instant, on n'a pas ce type de problème, mais nous, on l'a. Donc, comment est-ce qu'on explique ça, quoi ? Je veux dire, c'est parce que... Si nous, citoyens lambda, on voit déjà le manège des uns et des autres, de la revente sous certains parkings, dans certains endroits de la ville, etc., on a du mal à s'imaginer qu'une police ou que des gens qui sont compétents pour ne puissent pas se rendre compte de ça et mettre un espèce de terme. Parce que Philippe Dilewski disait que si on voulait arrêter la consommation, enfin la propagation de la drogue, en 24 heures, c'était possible.
Je ne sais pas. Je le laisserai s'occuper de cette
problématique-là. On n'a pas réfléchi de ce côté-là.
Je sais aussi.
Mais non. Alors, une hypothèse pour expliquer que les petits villages soient très touchés dans la région, c'est que depuis les années 70-80, le territoire du Nord-Isère est traversé par des flux de trafic qui viennent de Suisse et qui vont à Lyon et qui traversent vraiment ce territoire-là. Il y a des plaques tournantes de revente avant d'arriver à Lyon, en fait.
C'est comme une halte sur un long voyage.
C'est ça.
On est un port d'attache.
Et puis, nombreux consommateurs vont pratiquer un deal pour
pouvoir se racheter.
Pour leur propre consommation. C'est pas des gros dealers, c'est pas du... Mais voilà.
Mais c'est ça la problématique, peut-être.
Il y a quand même une dimension financière, donc qu'on n'a pas abordée, on n'est pas là pour ça, mais il y a quand même une dimension financière dans la consommation de tous ces produits. Et pour certains qui se retrouvent dans des situations, comme disait Guillaume tout à l'heure, ils perdent leur travail, des choses comme ça. Pour autant, eh bien, ils continuent de consommer parce que ils sont dans cette spirale de la consommation. Et ça peut être à ce moment-là pour eux une solution qui va leur permettre de continuer à pouvoir avoir leurs produits.
Alors vous m'avez parlé lors d'un entretien d'une drogue qui était en train de se vendre dans notre région et qui faisait des ravages. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, absolument. C'est intéressant d'en parler. C'est un produit que nous, on a découvert via des patients qui nous ont sollicité et que les patients nous présentaient comme étant de l'héroïne blanche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, l'héroïne que les gens achètent et consomment, c'est essentiellement ce qu'on appelle de l'héroïne brune. Et l'héroïne blanche représente un espèce de mythe pour les consommateurs, un espèce d'Eldorado. Mais en pratique, personne ne trouve théoriquement d'héroïne blanche. Et puis là, on a été consulté par des patients l'année dernière, nous disant qu'ils consommaient de l'héroïne blanche extrêmement puissante et qui nous faisait part de leur grande inquiétude. Enfin, vraiment, ils se présentaient avec une demande différente des patients habituels qui nous disent... j'en peux plus, j'ai plus de sous, j'ai perdu mon travail, ma femme, mon truc, je veux arrêter la drogue. Là, c'était pas vraiment cette présentation-là. C'est des gens qui disaient autour de moi, les gens tombent comme des mouches. J'ai déjà fait une overdose. Je consomme un truc qui est trop puissant. Il faut que je l'arrête parce qu'autrement, je vais mourir.
Grave.
Ouais. Et puis, on a eu la grande surprise en faisant les tests préalables ou mis sous traitement pour ces patients de se rendre compte qu'en fait, c'était pas de l'héroïne, que ces gens-là n'avaient pas d'héroïne ni dans le sang ni dans les urines. Et après avoir tournicoté pendant un bon moment pour essayer de comprendre ce qu'ils prenaient, on a fini par réussir à faire analyser du produit. Et le produit s'est révélé que c'est un médicament, une molécule qui s'appelle le fentanyl. Cette molécule est 100 fois plus puissante que la morphine et 40 à 50 fois plus puissante que l'héroïne pure.
Ça vous détruit quelqu'un en un rien
de
temps, quoi.
Ça tue, en fait, parce que les gens font des overdoses avec des... Si quelqu'un qui a l'habitude de prendre de l'héroïne, même un gros consommateur d'héroïne brune, prend ne serait-ce qu'une dose la moitié inférieure à ce qu'il prend habituellement, il fait une overdose mortelle en quelques minutes.
Bon, là, on est, on peut rien faire, j'imagine, à part dire aux gens
attention, alerter.
On peut dire, et on est en train de le faire là, donc c'est vraiment une bonne tribune, merci.
Je vous en prie.
De dire aux gens de se méfier de ce produit, de pas chercher à le goûter. C'est vraiment un produit d'une toxicité extrême. Il y a au moins 2 personnes qui sont décédées. En 2016, quand je dis au moins, c'est que 2 personnes ont été identifiées.
Voilà.
Mais il y a eu au moins une dizaine d'overdoses non mortelles qui ont été rattrapées d'un poil par le SAMU.
Donc la situation est quand même grave.
Donc la situation est grave. Pour l'instant, il n'y a probablement pas énormément de personnes qui le consomment. Alors on essaye d'estimer un peu, mais c'est vraiment vague, c'est pas rondi. Et probablement que...
Puis ça va se multiplier comme le reste.
Je veux pas dire combien de personnes il y a, parce que j'en sais rien.
Mais
c'est un produit qui est encore relativement peu répandu, mais dont les dangers sont absolument colossaux.
Ce qui est dangereux, c'est qu'il est vendu, ce produit est vendu comme étant de l'héroïne.
Oui, c'est ça le problème, c'est une tromperie, quoi, ça, en plus, sur le sujet.
C'est une tromperie, mais une tromperie dangereuse.
Oui. Hein,
fatale. Sachant que sur le territoire, il est vendu comme étant de l'héroïne, mais qu'on suspecte que dans la Drôme, ce produit pourrait être vendu comme étant de la cocaïne, ce qui est plus dangereux. Parce que la cocaïne et l'héroïne ont des effets opposés. Mmh. Et donc, quelqu'un qui pense prendre de la cocaïne, puis qui va se retrouver à piquer du nez, va reprendre du produit pour aller mieux. Et si elle n'avait pas fait l'overdose la première fois, elle la fera la deuxième.
Bon. Ouais. Bien, donc alerte rouge hein, sur le sujet. Nous allons faire une pause musicale, la seconde, sur Couleur FM dans Tout Feu Tout Femme, Couleur FM 97.1 avec Tom Waits, Chicago.
Maybe things will be better in Chicago. Well, it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. Oh, we need the Lord will give us all we want. We carry. Where the rainbow is the ground. I'm not alone, I'm not afraid, cause this bird is flown from its cage. There's so much magic we know on this south highway we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. If this pain will be better in Chicago, everything will be better in Chicago.
Donc on constate que les jeunes commencent de plus en plus tôt à être addicts à quelque chose. C'est une situation qui met le jeune vite en dehors de la société et de l'école, qu'il met aussi très vite en conflit avec son entourage parce qu'il perd ses repères et qu'il ne contrôle plus rien à bien des niveaux. Donc c'est un vrai phénomène d'exclusion sociale à mon sens. En tant que parent, comment peut-on se rendre compte qu'un enfant touche à la drogue et quels sont les signaux d'alerte ? Vaste question.
C'est une question vraiment
difficile. Merci de l'avoir posée.
Ouais, c'est ça. Alors... Le risque, si vous voulez, de répondre trop frontalement à cette question, c'est de provoquer de la suspicion. Mmh. Et la suspicion et toute la question de la confiance autour de la question des toxicomanies est vraiment un espèce de poison. Et dans les familles, c'est un poison. Donc, moi, je pense qu'il faut décaler un tout petit peu la question et se dire qu'en fait, ce qu'il faudrait savoir repérer, c'est pas forcément qu'un enfant ou qu'un adolescent consomme, mais de savoir repérer un ado en difficulté qui va pas bien. Mmh. Et ça, et ben comment est-ce qu'on fait pour repérer un ado qui va pas bien ? C'est un ado dont les relations sociales se dégradent de façon globale. Donc, ça va se passer moins bien à l'école, il peut y avoir un décrochage, il peut y avoir... des conflits, des violences, des choses comme ça. C'est un ado qui va se couper de la relation avec ses parents, qui va se couper de la relation avec ses amis, qui va se renfermer sur lui-même, qui sera plus triste, qui va moins prendre soin de lui. C'est voilà toute la question du décrochage scolaire, éventuellement de la délinquance dans certains cas. Et alors évidemment, il faut arriver idéalement à repérer les choses avant les que ça prenne trop de place.
En tant que parent, pardon, on se rend compte bien souvent de ce genre de problématique, sauf que on n'arrive plus à avoir de contact avec l'enfant. Et comme on n'a plus de contact et qu'on n'arrive plus à parler avec lui ou avec elle, c'est finalement là où est le problème. Parce que sans rendre compte, finalement, on se rend compte que son enfant va pas bien, qu'il y a un os dans le pâté. Mmh. Mais comment agir, comment faire, c'est là la difficulté, quoi. Le diriger vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une personne de confiance.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent que les choses commencent à déraper, l'idée, c'est quand même de pouvoir proposer aux jeunes une évaluation avec un médecin.
Ouais.
Donc ça peut être le médecin de famille. Hein, en premier recours, c'est quand même l'interlocuteur le plus pertinent. Et puis s'il s'avère que quand même y a la question des produits est présente, les centres comme le nôtre sont là pour ça. Hein. Alors...
Après, juste une précision, on peut recevoir, nous, des parents qui ont repéré toutes ces difficultés, qui n'arrivent pas à établir le dialogue avec leurs jeunes, avec leurs gamins. Et on peut recevoir les parents seuls, hein, sans
ça,
le jeune.
Intéressant.
Sans le jeune concerné, ça nous arrive de ne voir que les parents et de ne jamais voir le jeune.
Ah ouais. Hein, au secours, on ne sait plus quoi faire, et donnez-nous des pistes.
Voilà, et puis pour peut-être aussi échanger, pour essayer d'évaluer la gravité ou pas. Enfin, voilà, comme disait Guillaume tout à l'heure, dans la consommation de produits, on va être sur différents niveaux. Il y a des consommations qui ne vont pas être des consommations forcément à risque.
Qui, pour le parent, semblent dramatiques,
voilà,
et qui, en réalité, ne sont pas si graves que ça.
Donc, voilà, c'est important de savoir que les parents ou l'entourage, hein, les conjoints, les enfants aussi, hein, de parents consommateurs, peuvent venir nous voir.
Oui.
Sans forcément qu'on ait besoin de rencontrer la personne qui consomme.
Alors, je voudrais juste préciser quelque chose qu'on n'a pas dit très clairement tout à l'heure, et au moment où on commence à inviter les gens à venir nous rencontrer, c'est important de repréciser que les gens sont les bienvenus pour venir nous voir autour de problématiques sur des produits illicites ou sur des addictions sans produits, donc des addictions comportementales. Tout le versant alcool, tabac,
c'est pas votre rayon.
Ça va plutôt être la structure de Bourgoin qui s'appelle le service addictologique mutualiste des Alpes, le SAMA, ou l'équipe de liaison de l'hôpital de Bourgoin.
D'accord, ça c'est une précision à donner effectivement pour pas avoir d'afflux non justifié.
Oui, et puis que les gens soient orientés bien.
Tout à fait, c'est une bonne chose.
C'est déjà difficile de venir nous rencontrer, donc si
fait.
C'est pas la bonne porte,
la
ça
démarche
complique.
Est pas évidente dans ce genre de situation. Alors on comprend bien que la société a tenté à de multiples reprises de mettre en place différents procédés. Néanmoins, peut-on réellement, elles sont pas vraiment couronnées de succès. Actuellement, qu'est-ce qui est réellement mis en place par les pouvoirs publics pour contrer ce phénomène? Pourquoi cela ne nous semble-t-il pas efficace vu de l'extérieur?
Alors, il me semble qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a deux dimensions. Il y en a une qui me semble la piste d'avenir et qu'il va falloir continuer de renforcer. Et puis l'autre où il faudrait vraiment qu'il y ait un changement de culture. Ce qu'il faut encourager et continuer, et ben, c'est l'accès aux soins en matière d'addictologie. Et c'est continuer de développer des structures, continuer de financer les structures et de donner les moyens aux structures de pouvoir avoir accès à la population dans son ensemble. Et ça, c'est une vraie piste. La deuxième piste, et celle qu'il faudrait abandonner, c'est ce qu'on appelle la guerre à la drogue. Ça fait maintenant 20 ou 30 ans, qu'au niveau... peut-être même 40 ans, je crois que ça a dû commencer autour de Nixon. Donc ça fait un bon moment.
Ça fait pas mal de temps.
Qu'on a dit qu'on allait... éradiquer la drogue, et le constat actuel, c'est que ça ne fonctionne pas. Les réseaux sont de plus en plus puissants, et il y a de plus en plus de consommateurs de partout. Donc, et les prisons françaises en particulier sont remplies de consommateurs. Et du coup, ça nous amène au fait que la place des consommateurs, c'est dans des services de soins, c'est pas en prison.
C'est pas de la répression.
Voilà. Après, en prison, il faut mettre les trafiquants quand on les attrape. Mais mettre des consommateurs en prison, c'est totalement contre-productif. On les écarte encore plus d'une trajectoire sociale qui leur permettrait d'abandonner leurs problématiques addictives. Surpopulation carcérale, enfin bon, tous ces problèmes.
Moi, j'ai souvenance d'une chose qu'on a perdu de vue depuis de longues années, mais j'habitais en région parisienne, dans la banlieue est de Paris, et à l'époque, on avait ce qu'on appelait ces centres médico-sociaux, hein, qu'on a supprimés, et on avait des gens qui étaient des référents. Et effectivement, cette population qui avait tendance à partir un petit peu en live dès l'adolescence, elle était tout de suite prise en charge. Donc, c'était des petits centres médicaux qui étaient là dans chaque cité, dans plusieurs lieux de la ville, qui évitaient que ça prenne une propagation, que le phénomène se dégénère, quoi. Et ça, pouf, ça a volé en éclats. C'est bien dommage.
Alors, si vous voulez, ce qu'il y avait d'intéressant dans ces centres médico-sociaux, même si je ne connais pas parfaitement ce dispositif, a priori, c'était la question de la pluridisciplinarité.
Oui, tout à fait.
Et du coup, le fait que des professionnels de cultures différentes, de cultures professionnelles différentes, puissent intervenir ensemble.
Voilà. Et la proximité.
Et la proximité surtout, oui. Alors, nous allons faire une pause musicale avec PJ Harvey, Medicinals. Nous écoutons sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout Feu Tout Femme.
I was walking through the National Mall, thinking about the distant knows how they used to grow there. When the ground was a marshland, undisturbed by human hands.
Hi, Snowdrop.
Hi, Elvis.
Hey, Joe. Sing us a song, please.
Song, huh?
Yeah. Song like sing.
I took a long, long walk in the rain. Took a long, long walk in the rain. I took a long, long walk in the rain. I'm thinking of you. Took a long, long walk in the rain. I took a walk, I took a walk. You have seen the flowers sway. Have you ever heard them play? The story, a story of love. Have you heard the roses sing? The melody of love. If you do, you dance.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout Feu Tout Femme où nous traitons le sujet des addictions et nous avons donc invité Madame Argou et Monsieur Souen de l'association Citoni, centre de soins, accompagnement et prévention en addictologie de Bourgoin-Jallieu. Alors nous allons conclure cette émission maintenant parce que le temps passe toujours trop vite. On va mettre un petit peu d'optimisme quand même dans tout cela parce que vous nous poussez aussi à avoir de l'optimisme. Ça veut dire que si on va chez vous, on a espoir de pouvoir s'en sortir. Et puis qu'il y a surtout des gens qui se battent pour combattre cela. Et vous faites partie de ces gens.
Et que les gens qui sont dans ces problématiques-là se battent aussi pour s'en sortir.
Tout à fait, parce que c'est dur. Il faut le dire, c'est un combat. Mmh. C'est un vrai combat. Hein. C'est comme si on était sur un ring. On n'est pas toujours sûr de gagner, mais en tous les cas, il faut avoir le courage de le faire. Et le parcours est sûrement long. Quels sont les futurs projets pour votre centre ?
Les futurs projets, ce serait ce qu'on a un petit peu abordé en début d'émission, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir des antennes sur le territoire. Donc on en a une première, comme disait Guillaume, qui a été ouverte sur Pont-de-Chéruy. On a projet d'en ouvrir normalement 3 autres.
Ah, hein. Bien.
Voilà, en attente des validations et surtout des financements.
Ah, hein, le financement, il dépend de qui ?
Alors le financement, c'est nous sommes sous tutelle de l'Agence régionale de santé. Mm-hmm. Hein. Donc c'est eux qui valident nos projets et qui valident nos demandes de budget. Et ensuite, ce sont des budgets CPAM.
Donc, d'accord.
Nous touchons un budget de la CPAM.
Donc ça concerne le ministère de la Santé.
Oui.
Quelque part.
Oui, oui, hein, tout à fait. Tout à fait.
Allô, la Terre, ici, la Lune.
Voilà, bon.
Mais voilà, nos interlocuteurs, fort heureusement, sont moins éloignés de nous que les gens du ministère. Hein, les gens
de l'ARS sont
des vrais interlocuteurs qu'on connaît bien, avec lesquels on
travaille main dans la main.
De travailler.
Et donc, vous avez un petit peu une idée sur quelques, d'ici 5 ans, du nombre d'antennes que potentiellement vous espérez pouvoir ouvrir ?
Bah écoutez, on espère bien avoir nos 4 antennes, peut-être même avant 5 ans. Enfin, en tout cas,
souhaite.
C'est ce que j'espère. Ouais. Voilà, nous, on a mené une enquête sur le territoire, on a déposé un projet d'ouverture d'antennes, et ce projet comporte 4 antennes sur notre territoire du Nord-Isère.
Alors, pour conclure, quel message souhaitez-vous prestamment faire passer à nos auditeurs ?
Alors, il me semble qu'on a déjà fait passer pas mal de messages. Oui. Pour dire une dernière chose, je dirais que j'inviterais les gens qui se sentent en difficulté avec des produits illicites à ne pas hésiter à venir nous rencontrer, même s'ils ne sont pas encore dans une démarche d'arrêt du produit. Je pense, j'ai la prétention de penser qu'on a plein de choses à échanger avec eux pour qu'ils puissent prendre soin d'eux différemment, même s'ils continuent le temps qu'ils continueront de consommer. Et puis si un jour ils décident d'arrêter, c'est bien. S'ils décident pas, on pourra les aider quand même en leur proposant des choses pour qu'ils puissent...
Consommer, c'est pas incompatible avec le fait de venir vous voir et de discuter.
Tout
parce que
fait.
C'est la discussion qui amènera in fine à l'aboutissement de la suppression de ce fléau.
Mais que même s'il n'y a pas de suppression du fléau, si les gens ne font pas d'overdose, si les gens n'attrapent pas le sida, si les gens n'attrapent pas une hépatite, si on arrive à les accompagner à reprendre un travail, si on arrive à leur permettre d'avoir un logement autonome, etc.
avec leur famille.
Continuent de consommer, au moins ils iront mieux.
Et ça, ce n'est pas de l'utopie, hein, il faut le dire clairement.
Ah non,
c'est des choses qui sont tout à fait gérables, tout à fait faisables.
C'est notre boulot au quotidien.
C'est notre travail, oui. C'est
notre boulot au quotidien. C'est notre boulot au quotidien.
Donc, avis à la population, vous pouvez joindre Citoni au 04 74 93 15 64. Vous pouvez aussi aller sur Internet sur www.assotandem.org pour lire un petit peu tout ce qui est dit sur le sujet et sur l'action de Citoni. Encore un petit mot peut-être, vous avez encore quelques instants, vous avez encore envie de dire quelque chose qui vous paraît important qu'on aurait oublié.
Bon, je pense qu'on a fait déjà un bon tour d'horizon. On pourrait parler des heures encore, hein, mais sinon on a fait un bon tour d'horizon. Voilà, que les personnes n'hésitent pas même à appeler, hein, ne serait-ce qu'au téléphone. On peut aussi renseigner par téléphone.
D'accord.
Si besoin.
Oui, parce que souvent on a peur.
Aussi un message aux professionnels, aux personnes des structures sur le territoire, aux médecins, aux pharmaciens. Voilà, on est toujours. On tâche de se rendre disponible pour répondre aux questions, pour travailler ensemble.
Parce que les premiers interlocuteurs de ces gens-là sont aussi souvent un pharmacien.
Le pharmacien,
un médecin,
a une place importante.
Le médecin généraliste.
Ouais. Le médecin généraliste, parfois aussi, est confronté. Alors, non pas qu'il ne sache pas faire, mais nous, l'intérêt, c'est qu'on est plusieurs, qu'on est une équipe.
Qui vous êtes formés pour.
Donc, c'est parfois plus facile.
Mais c'est surtout qu'on croise plusieurs regards professionnels.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas forcément du médecin, et donc voilà, qui n'hésite pas à nous appeler, il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit souvent, et en général, on tâche de répondre.
Allez, je vais faire
une
petite phrase réflexe, déclic, Citoni. On va faire ça comme ça pour conclure. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de passer cette heure en notre compagnie sur Tout Feu, Tout Femme, Couleur FM 97.1. Et nous allons écouter Slow Joe, When Are You Coming Home? Merci, à bientôt.
Merci,
au revoir.
Au revoir. Au revoir.
you're coming home. Down the days and nights and all the stress and strife I'm going through all alone. So tell me, baby, when are you coming home? I wait forever, that's how long you want me to wait. Never mind waiting, baby, just tell me, when are you coming home? Oh, baby, why are you always moving, always on the run? Oh, darling, I'm waiting for you.
I bake a cake and a pie. As soon as I hear you knock on the door, all the tears will just go dry.
Tell me, when are you coming home? Counting all the days, I'm counting all the nights, counting all the stress and all the strife I'm going through all alone. Why always moving, always on the run? I'm waiting for you, darling, when are you coming home? Tell me, little darling, when are you coming home?
I'll bake cake, cookies and pie. As soon as I hear you knock on the door, you know all my tears will just go dry. Forever, if that's how long you want me to wait, I'll wait till the day I die. Never mind the waiting, baby, just tell me, when are you coming home? When are you coming home?
Tout femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile.